C'était un extrait des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, et je rappelle que cette œuvre somptueuse sera donnée dans le cadre de la cathédrale Notre-Dame le 11 avril à 20h30. Je rappelle qu'il y aura la maîtrise de Notre-Dame de Paris, les instrumentistes du Conservatoire de Paris, du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Et c'est bien sûr Henri Chalet qui est dans notre studio qui dirigera cette œuvre. Vous la travaillez déjà depuis un moment, j'imagine.
On a commencé à travailler avec les enfants et avec les adultes aussi. Et ensuite, c'est vraiment une semaine avant que tout se joue où on réunit toutes les forces. Et ensuite, on est sur une semaine très dense, ce qu'on peut appeler une session, où tout le monde se réunit pour monter cet énorme monument.
C'est extraordinaire, vraiment. Moi, je suis venue avec mes petits-enfants de 9 ans, 11 ans. Ils étaient sidérés de voir des petits comme ça qui chantaient pendant... Les partitions étaient longues, vraiment. Et en plus, on avait une impression, c'est peut-être notre imagination, que ces enfants étaient tellement heureux d'être là.
Ben, c'est le principal, parce que c'est vrai qu'on essaye, en tant que professeur, on est évidemment passionné par la musique, mais surtout, le plus important, c'est de transmettre notre passion.
Et vous réussissez.
C'est gentil, merci. Oui. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ça, l'exigence ne suffit pas. Il faut quand même être passionné. C'est quand même quelque chose d'exigeant. C'est un travail qui est long. Il faut vraiment être passionné par ça pour aller au bout et avoir envie de faire toujours mieux.
Pas facile de monter Monteverdi. Ce que vous disiez est très juste. La musique verticale est importante, c'est-à-dire bon, tout ce qui vient de la Renaissance, puis il y a l'avènement de la monodie. Donc c'est vraiment, en effet, une œuvre. Bon, et puis il y a le génie de Monteverdi.
Voilà. Et la chance qu'on a à Notre-Dame, c'est qu'on essaye de travailler tous les répertoires avec toutes les époques. On a le panorama le plus large possible de la musique. Évidemment, historiquement, on est lié avec le grégorien et puis toute la musique médiévale, parce qu'on sait que Notre-Dame a été à une certaine époque un des endroits phares de cette recherche sur la polyphonie, sur l'arrivée de la mesure, de tout ce qui va aller avec,
du toute l'histoire de la musique.
Et donc on travaille beaucoup là-dessus, et puis on va plus loin, on travaille évidemment le classique. On a un concert avec Vivaldi et l'Orchestre de Chambre de Paris.
Vous allez en parler, vraiment.
On a plein de choses. Et puis on a la musique contemporaine parce que la musique doit continuer à vivre. Et on n'est pas juste un conservatoire dans le sens où on montre juste comme un musée ce qui s'est déjà fait. On est tout le temps en train de créer une nouvelle musique et de la faire vivre.
Mais je trouve que toute cette musique contemporaine sur ces orgues somptueux passe tellement mieux. On n'a pas du tout l'impression d'une rupture, comme souvent les auditeurs qui ne sont pas habitués rejettent dès que le langage musical est un petit peu déconcertant, ils fuient. Là, jamais.
C'est vrai que les gens ont un petit a priori sur la musique contemporaine et par principe ont peur et sont réticents. Nous, ce qu'on essaye de faire pour être un peu ludique dans nos programmations, c'est à la fois de mettre des œuvres qui rassurent les auditeurs et d'insérer dans un programme une pièce qui peut être moins connue, en tout cas qui ne soit pas un tube. Dans n'importe quelle époque, et aussi parfois d'insérer une création. C'est ce qu'on a fait pour le concert de la semaine dernière, où on avait cette majestueuse messe de Vierne, mais on a aussi fait deux commandes. Une commande pour le grand orgue, qui s'appelait Illumina, créée par Grégoire Roland.
C'est beau.
Et qui, pour l'anecdote, est un ancien maîtrisien. Donc nos maîtrisiens, quand ils sortent, ne sont pas forcément
révéler.
Tous professionnels derrière. Au pire, ils sont très cultivés, ce qui est déjà pas mal. Mais certains continuent évidemment dans une carrière professionnelle et dans plusieurs domaines. Évidemment, on a des chanteurs qui sont solistes. Eva Zaitsik, par exemple, qui vient d'être nommée aux Victoires de la Musique, est passée, entre autres, dans ses études par la maîtrise de Notre-Dame. On a Grégoire Roland, dont je parlais, qui est organiste maintenant, qui vient d'être nommé à la cathédrale d'Aix. Et qui est compositeur aussi. Et voilà, donc on essaye d'agir vraiment sur la musique contemporaine et sur la musique vivante de nos jours.
Alors, je suis toujours étonnée de voir le nombre de spectateurs et d'amoureux de la musique qui se précipitent à mon concert. Pourtant, vous faites pas beaucoup de publicité. Comment se fait-il?
Alors, ben, la publicité, c'est compliqué. C'est beaucoup de moyens aussi. Ça oui. coûte vite cher.
Mais comment
on arrive quand même à communiquer de manière ciblée sur un public qui est assez régulier, et on a aussi beaucoup de touristes qui viennent dans la cathédrale et qui profitent de ce moment unique de ne pas être au milieu des 14 millions de touristes qui passent dans la journée et d'être quelque part dans un moment de calme, de sérénité le soir, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas toute cette atmosphère très vivante qu'on peut retrouver dans la journée. Là, tout s'arrête, le temps s'arrête, on est tranquille dans la cathédrale.
C'est somptueux.
Les lumières sont vraiment très belles, et puis on espère que la musique l'est tout autant.
C'est magnifique, de par mon métier, je vais depuis longtemps, plusieurs fois par semaine au concert, mais je dois dire que c'est une émotion très particulière, la beauté de ces concerts dans ce lieu unique. Alors, je propose qu'on entende maintenant un extrait du Dixit Dominus de Vivaldi, et vous allez nous parler de cette œuvre que vous allez donner dans pas si longtemps, enfin pas si longtemps, avant les grandes vacances. Ce sera le 31 mai et c'est maintenant à notre radio. On écoute un extrait. C'était un extrait du Dixit Dominus de Vivaldi, et je vous rappelle que cette œuvre sera donnée dans les concerts du 30 et du 31 mai à 20h30 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec la maîtrise, le chœur d'adultes et jeunes ensemble, et ce sera Fabio Biondi, qui est aussi un musicien étonnant, qui, je pense, dirigera l'Orchestre Chambre de Paris,
oui,
ça
qui dirigera tout le monde ce soir-là.
Tout le monde, ce soir-là.
L'idée, c'est que on a évidemment des chefs dans la maison, moi-même, mais aussi Sylvain Dieudonné, Émilie Fleury, qui dirige aussi le Chœur d'Enfants. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi d'inviter d'autres personnalités, alors soit des ensembles, soit des chefs. En l'occurrence, cette fois-ci, on invite Fabio Biondi, qui était déjà venu il y a quelques années, ça s'est très bien passé, et ça nous permet d'avoir un rapport différent à la musique. Nous, on a une certaine habitude de la cathédrale et de nos chœurs, et ça nous permet de nous questionner aussi, de voir comment le chœur évolue sous la direction d'un autre chef. C'est important à la fois pour les chanteurs de voir d'autres directions, et aussi nous, en tant que chef, de voir d'autres visions du chœur qu'on a, de la musique qui est faite. Et donc, on essaye d'avoir des chefs de chœur ou des chefs d'orchestre qui sont spécialisés dans un domaine. En l'occurrence, Fabio Biondi est un des papes du moment de la musique ancienne, et donc on est ravis de l'accueillir pour faire ce travail autour de Vivaldi.
Alors j'en profite pour faire un petit peu de pub pour Fabio Biondi, parce qu'il a sorti des disques chez l'Opus 111 qui n'existe plus, mais qui sont d'une référence complète et totale, et qu'on ne se lasse pas d'entendre et de réentendre.
Oui, c'est un immense musicien, hein, et c'est vrai que on a cette chance-là à Notre-Dame de pouvoir inviter des grands noms comme Fabio Biondi, et tout le monde en sort vraiment content et gagnant.
Ce sera, n'est-ce pas, le 30 et 31 mai.
Voilà, il y a deux soirées pour cette occasion, donc mercredi 30 et jeudi 31 mai, et c'est à 20h exceptionnellement. D'habitude, nos concerts sont à 20h30, mais pour ce concert-là, ce sera 20h.
Henri Chalet, vous nous parlez un petit peu des concerts que l'on va pouvoir entendre jusqu'au début juillet, mais on ne peut pas tous les citer parce qu'il y en a
oui,
quand
y
même
en a
vraiment
un par
beaucoup,
semaine.
Un par semaine, mais ce qui les caractérise et puis ceux sur lesquels vous souhaitez peut-être vous attarder plus longtemps.
Oui, alors on a parlé beaucoup déjà de Monteverdi avec les Vêpres de Monteverdi. Ce qu'on essaye, c'est de faire un peu des thématiques. Et donc, autour de Monteverdi, on a souhaité faire travailler nos solistes, nos étudiants qui sont aussi dans un travail soliste. Et il y a un deuxième concert qui est 15 jours après, le 24 avril, autour de Monteverdi, Carissimi. On a aussi une autre thématique qui est autour de la musique médiévale, une sorte de printemps médiéval, avec trois ou quatre concerts dirigés par Sylvain Dieudonné. Il y en a un qui est important, qui va retracer tout l'art de la polyphonie à Notre-Dame. On en parlait tout à l'heure sur c'est la chance qu'on a à Notre-Dame d'avoir eu des immenses compositeurs, Léonin, Perrotin, qui sont dans tous les dictionnaires de musique, qui ont agi sur la découverte de la polyphonie. Et donc on va mettre ça en avant. On a aussi la chance d'accueillir l'ensemble Les Mélanges pour un concert autour de Titlouz, qui est connu pour ses pièces d'orgue. Et donc tous les organismes jouent du Titlouz, mais on a redécouvert récemment des messes qu'il avait composées et qui n'avaient pas été enregistrées. Elles viennent d'être éditées et donc elles seront faites en concert au mois de juin, le mardi 5 juin. Et on a aussi avec le chœur d'enfants, la musique de la Renaissance autour de la Vierge, sur le thème de l'amour, avec du Monteverdi, mais aussi du Victoria, qui est un compositeur espagnol, avec William Byrd, qui est compositeur anglais. Ça, ce sera dirigé par Émilie Fleury, le chœur d'enfants. Et puis, on a un bel événement aussi à la fin du mois de juin. On essaie de faire des collaborations et aussi de faire un rayonnement international. Et chaque année, on accueille des chœurs étrangers. Cette année, on accueille le Clare College de Cambridge, avec qui on avait eu une très belle collaboration il y a 2 ans. Et donc, nous faisons trois concerts. Un concert à la cathédrale Notre-Dame, un deuxième à Cambridge avec eux, et un troisième aussi au Festival de Vichy dans la foulée fin juin. Et donc ça, ce sera un bon moment, parce que c'est une messe absolument magnifique, qui est la messe de Franck Martin, qui est un compositeur suisse, qui est peu connu, mais...
Malheureusement, on ne comprend pas pourquoi.
Voilà, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est vraiment sublimissime.
Absolument.
C'est une pièce c'est une œuvre qui est a cappella.
Et toutes les œuvres de ce qu'on... Voilà. Compositeur.
Et cette messe a une particularité, c'est que Franck Martin ne voulait pas l'éditer. Il voulait, en gros, que ce soit entre Dieu et lui, cette pièce. Et il a mis un nombre d'années délirant à finir par accepter de la sortir. Et on peut dire que c'est une des pièces les plus connues de Franck Martin maintenant.
En Chalet, c'est quel jour, ça? J'ai absolument...
Ça, c'est le jeudi 28 juin.
Jeudi
et donc,
28 juin.
Avec le Clare College de Cambridge, la maîtrise de Notre-Dame. Et donc un concert qui mélange à la fois la messe de Franck Martin, un beau monument, et la musique anglaise aussi, puisqu'on accueille ces chanteurs anglais. Et donc l'idée, c'est de faire un gros travail pédagogique aussi pour nos chanteurs, et de travailler tout ce qui est le style de la musique anglaise, avec Britten, et donc Graham Ross, qui est le chef de chœur du Clare College, viendra nous parler un peu de toute cette musique anglaise.
Alors moi, je vais essayer de donner quelques informations supplémentaires, parce que j'aime bien mes auditeurs et que pour eux, ça va être précieux. Je tiens à dire que les places sont pas très chères, ça va de 15€ à 25€, qu'il y a des tarifs réduits, qu'il y a des groupes, et puis que le point de vente à l'accueil de la cathédrale Notre-Dame de Paris, tous les jours, de 9h30 à 17h30. Ça, c'est en fin de compte, c'est là que vous vendez tous vos billets.
Oui, et aussi beaucoup sur Internet.
Internet. Je vous laisse lire le site.
Oui. Hein. Alors, l'association s'appelle Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. qui donc réunit à la fois la maîtrise, les organistes, tout ce qui est musical. Et donc le site internet, c'est facile, c'est musique-sacrée-notre-dame-de-paris.fr. Et là-dessus, vous trouverez toutes les informations sur la maîtrise et sur les concerts. Et évidemment, vous pouvez acheter les billets sur le site internet aussi.
Ah oui, c'est précieux ça. Musique-sacrée-notre-dame-de-paris, tout attaché, voilà. .fr. Voilà. Alors, si vous en êtes d'accord, je propose qu'on se termine en illustrant le concert du 22 mai. C'est Charles-Marie Bigdor, n'est-ce pas ?
Oui, le concert du 22 mai, qui est donc un récital d'orgue. On invite à cette occasion David Higgs. Chaque année, on a 5 organistes titulaires à Notre-Dame, 3 au grand orgue et 2 à l'orgue de chœur, et qui se partagent la lourde charge musicale. Et dans la saison de concert, on aime inviter 4 ou 5 fois par an des organistes célèbres qui viennent soit de France, soit du monde. En l'occurrence, ici, on a donc David Higgs qui vient et qui va essayer à la fois de représenter ce qu'est le grand orgue comme on le connaît, avec la musique de Charles-Marie Bigdor, de César Franck, qui a fait toute la renommée de la musique romantique d'orgue, et puis aussi des choses plus récentes, et puis de la musique anglo-saxonne avec du Hampton et du Kennedy.
Alors c'est un des principaux organismes de concert d'Amérique. Voilà, alors je crois qu'il y a la 6e symphonie de Charles Bigdor, non?
Oui.
Et alors moi j'ai choisi ce final, et vous imaginez pourquoi.
Et oui.
On écoute donc ce final de la 6e symphonie de Charles-Marie Bigdor. C'était le final de la 6e symphonie de Charles-Marie Bigdor. Et je vous rappelle que cette œuvre étonnante sera donnée dans un cadre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans un récital d'orgue, le 22 mai, par David Higgs. Voilà. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous entendre longtemps en podcast sur vos ordinateurs, vos iPhones et autres. Et puis moi-même, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Paris secret.
Paris secret.
Diane des Hasards.
Bonjour à tous. On parle beaucoup de changement d'heure en ce moment, mais savez-vous seulement où se trouve la plus vieille horloge publique de Paris ? Vous la trouverez sur la tour nord du Palais de Justice, sur l'île de la Cité. On la voit de loin, cette tour, avec son clocheton, son toit qui scintille au soleil et sa girouette dorée à l'or fin. On ne peut pas rater son horloge. Elle rayonne d'or et de bleu azur. Prenez le temps de la regarder, elle mérite bien cela. Depuis près de 650 ans, elle sonne les heures et les demi-heures, 24 heures sur 24, et elle est la première à l'avoir fait. L'horloge a été offerte aux Parisiens par le roi Charles V lorsqu'il quitte le Palais de la Cité pour d'autres résidences. Comment les Parisiens faisaient-ils avant pour savoir l'heure ? Ils se fiaient aux sonneries des cloches, aux cadrans solaires. Chacun avait son moyen pour s'y retrouver. Grâce à Charles V, l'heure devient la même pour tous. Les Parisiens sont plus précis, ou tout au moins leur roi leur donne les moyens de le devenir. Franchissez le pont au change, arrivez sur l'île, levez les yeux sur cet incroyable décor. À l'origine, l'horloge est conçue par le Lorrain Henri de Vic. Le mécanisme d'origine a disparu aujourd'hui. L'horloge fonctionne à l'électricité. Après la dernière restauration, elle a pourtant retrouvé son faste d'origine. Regardez ces somptueuses aiguilles de cuivre. Elles indiquent l'heure sur les chiffres romains du cadran de pierre. Sur les deux côtés, des figures allégoriques qu'on reconnaît facilement à leur attribut. La balance pour la justice, le sceptre pour la loi. Les rois de France, qui ont commandé des restaurations successives de l'horloge, ont laissé leurs traces dans le décor. On découvre les initiales d'Henri II et de Catherine de Médicis, celles d'Henri IV et de Marguerite de Valois. Enfin, deux couronnes, celle de Pologne et celle de France. Elles sont là pour un seul et même roi, Henri III, qui fut successivement souverain des deux royaumes. À vous de vous perdre dans les détails de fleurs de lys, d'angelots, d'inscriptions, de blasons. L'horloge est un véritable quiz sur l'histoire de France. Les informations pratiques sont sur notre site, Radio Notre-Dame, Paris Secret. Bonne visite et à très bientôt pour d'autres Paris Secrets.
Radio Notre-Dame. Avez-vous pensé à l'Institut catholique de Paris pour votre master ? L'ICP propose une trentaine de masters dans des domaines aussi variés que le droit, l'économie solidaire et le développement durable, les relations internationales, les ressources humaines, la communication, la culture, les métiers de l'éducation et de la formation. ICP, l'esprit grand ouvert sur le monde.
Il y a plus de 2000 ans, une jeune femme défie les traditions de son temps.
Dieu t'a créé pour que tu sois mère.
Je ne suis pas faite pour cette vie.
Alors pourquoi es-tu faite ?
Rune et Mara. Joaquin Phoenix, Taha Rahim, Marie-Madeleine, le destin d'une femme hors du commun.
Elle accomplira la volonté de Dieu.
Découvrez la véritable histoire de Marie-Madeleine.
Je ne me tairai pas, je me ferai entendre.
Par le réalisateur de Lyon et les producteurs du Discours d'un roi, Marie-Madeleine, le 28 mars au cinéma.
Florence, 69 ans.
J'ai choisi de faire un legs en faveur du Collège des Bernardins. Pour faire vivre cet endroit à la beauté millénaire, pour contribuer au rayonnement de ce lieu de dialogue et pour ouvrir des voies d'espérance. Faites comme moi, construisez l'avenir de l'homme, légué au Collège des Bernardins.
Pour plus de renseignements et pour recevoir une brochure, contactez la Fondation des Bernardins au 01 53 10 02 75 ou sur collegedesbernardins.fr.
Yeah.
Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous nous écoutez depuis longtemps, vous êtes fidèle à nos émissions et vous aimez vos rendez-vous avec nous. Sachez que si nous pouvons produire tous ces contenus et diffuser nos programmes, c'est grâce à la générosité de nos auditeurs. Vous aussi, devenez les acteurs de Radio Notre-Dame en nous apportant votre soutien financier au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr. Merci.
Vous écoutez Radio Notre-Dame. Tout de suite, le chapelet en direct de Lourdes en union avec les catholiques du monde entier.